Interview.
Bonjour, ici Herdiwa et c'est l'heure de l'interview avec la présence de Gabriel Bondaz. Bonjour.
Bonjour.
Et de Marc Batty. Bonjour à vous. Vous êtes ici pour nous proposer une conférence intitulée « Sortir des GAFAM ». Ça aura lieu à l'Avant-Poste le samedi 24 janvier entre 11h et midi. Et donc, il s'agira de se réapproprier localement l'environnement numérique. Et pour cela, je vais demander à Gabriel, avant tout, votre activité professionnelle vous amène justement à proposer cette conférence et quelle est-elle ?
Alors, moi, je suis gérant d'une petite entreprise qui a été créée en 2007. Donc, ça fait bientôt 18 ans qu'elle existe, cette société. Et j'ai toujours été convaincu de l'usage de l'outil open source, des outils open source. Et c'est quelque chose qui est une valeur philosophique qu'il y a dans notre société. Et au fur et à mesure de la création de cette entreprise et de son développement, on a été amené à faire des choix et les choix ont toujours été d'utiliser exclusivement du logiciel open source libre. Et par cette pratique, par cette mise en place de cette pratique, je me suis rendu compte qu'il était tout à fait possible d'être quelque part autonome avec l'usage de son logiciel. Et dans mon cas, j'ai une SARL, j'ai une activité professionnelle et dans le cadre de mon activité, j'ai pu utiliser exclusivement ce logiciel-là, enfin ces logiciels-là. Ça va de quand il faut écrire un traitement de texte, on utilise un outil, par exemple LibreOffice, ou à l'époque il y avait OpenOffice, mais maintenant LibreOffice avec l'outil Writer, qui est le pendant libre de l'outil Microsoft Word. Donc quand j'ai besoin, quand j'ai besoin de faire un traitement de texte, j'utilise un outil open source pour le faire. Et ça, on va le décliner surtout dans notre société, absolument surtout quand on a besoin de notre messagerie, de gérer notre messagerie, s'est posé la question. Alors à un moment donné, on a eu des serveurs mail qui étaient gérés par Google et on a eu cette réflexion de sortir de ça et de gérer nous-mêmes notre messagerie. Alors ça demande un peu de technicité, mais on l'a mis en place et ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on tourne avec cette messagerie, qu'on gère nous-mêmes. Et je peux décliner comme ça ainsi de suite quand il a fallu faire des choix sur les éditeurs, parce qu'on fait du code beaucoup, donc l'éditeur de code, on a utilisé des outils open source. Quand il a fallu utiliser des outils, par exemple, quand on avait besoin de retoucher des logos ou des images, on a dans l'écosystème digital créatif graphique, on a Photoshop qui est très connu, ou Illustrator, et on a les pendants libres, GIMP et Inkscape. Donc nous, notre politique dans la société, ou même pas notre politique, notre philosophie, c'est d'utiliser exclusivement du logiciel libre. Et de par cette mise en pratique, et moi aujourd'hui ça fait peut-être plus de 10 ans que je peux considérer que notre société est complètement autonome sur cette partie numérique, en utilisant soit nos propres outils, en ayant nos propres serveurs pour héberger nos différents applicatifs. Et j'ai fait le constat que c'est faisable, ça fonctionne au niveau professionnel, et on a la possibilité aujourd'hui de montrer aux autres, entre guillemets, à ceux qui le souhaitent, que c'est possible, qu'on peut le faire. Et l'idée de cette conférence, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de proposer ce que nous on a pu mettre en place, en tout cas on va en faire un modèle d'exemple, mais surtout on a réfléchi, parce qu'il y a des usages aujourd'hui qui commencent à se développer sur, je pense à l'échange de fichiers, souvent c'est assez classique d'utiliser des outils comme Dropbox ou Google Drive, c'est des outils que beaucoup de gens connaissent et utilisent, on a des pendants libres de ces outils-là, et ça nécessite d'avoir un serveur pour pouvoir utiliser les fichiers. Et donc on met en place, avec le projet qui est Liodi, qui est en train de se créer, des outils à disposition pour le grand public, pour pouvoir montrer qu'on peut héberger ses propres fichiers soi-même, sur ses propres serveurs, et qu'on peut le faire complètement indépendamment des GAFAM. Voilà. Et je peux décliner, il y a beaucoup d'autres outils comme ça qu'on va présenter, mais je ne veux pas trop en dire, il y a une conférence pour en parler justement.
À nos côtés, donc, Marc Batty, vous, votre participation consiste en quoi ?
Donc moi, je suis utilisateur, c'est-à-dire que je suis intéressé par ce que ça propose. Et du coup, Voilà, ça m'a intéressé de voir la solution proposée et j'ai commencé à mettre en application les solutions proposées. Alors, on avance par petites étapes, mais j'ai déjà récupéré, j'utilisais par exemple Dropbox que j'utilise plus. Maintenant, j'ai un système équivalent qui est libre et que je contrôle. Et puis après, ça va être le mail. Là, je commence à y réfléchir. Il y a aussi un Nextcloud. Donc, le Nextcloud, c'est Dropbox. Une gestionnaire de mots de passe, des choses comme ça que je me réapproprie plutôt que de les laisser à des sociétés dont je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font des données. Voilà.
Et d'ailleurs, donc, vous avez vous-même opéré cette transition du GAFAM à un réseau peut-être plus alternatif. Et comment s'est procédé, selon vous, cette transition? Est-ce que cela a été facile? Est-ce qu'il y a aussi peut-être moins de rapidité que ce que proposent les GAFAM? Un accès peut-être plus lent? Comment s'opère cette transition, votre sentiment?
Alors c'est un process, c'est-à-dire que ça se fait pas, on transitionne pas comme ça du jour au lendemain. C'est on commence par une toute petite étape et on regarde qu'est-ce qui se passe et puis petit à petit on des choses. Moi j'ai encore des choses chez les GAFAM, mais je les déplace au fur et à mesure vers chez moi, et en fonction de la maîtrise aussi que j'en ai, parce que c'est effectivement ça demande un petit apprentissage, un usage. Il faut pas tout chambouler tout d'un coup parce que sinon ça fait trop et on laisse tomber. Donc il faut juste acquérir quelques compétences sur certains domaines. Une fois qu'on les a, on passe aux suivantes. Et moi, je pense que j'en ai pour un an à passer au moins, et encore, peut-être plus, je ne sais pas. Mais disons que j'imagine ça, à l'horizon d'un an, le travail pour progressivement me débarrasser de mes habitudes GAFAM et de les récupérer sous mon contrôle. Et donc, ça demande quand même d'apprendre un petit peu de technique, mais ça reste... Si on n'est pas complètement hermétique à la technique, c'est jouable. C'est-à-dire que c'est pas non plus très compliqué à apprendre, mais il ne faut pas être complètement phobique de la technique. Voilà.
Il y a aussi donc ce langage utilisé qui diffère des GAFAM. Je parle des termes qui sont attribués à certaines applications ou à un certain mode d'utilisation. Il y a aussi donc cet apprentissage de cette langue. Fut un temps où Linux avait ce problème où il fallait instruire au clavier des informations pour accéder à certains logiciels. Ça s'est beaucoup plus démocratisé depuis.
Oui, alors je pense que l'exemple que tu prends, c'est le terminal, c'est-à-dire qu'effectivement, au tout départ, quand on avait un système d'exploitation, on le manipulait sous Linux principalement avec le terminal. Donc, par exemple, pour se déplacer dans un dossier, on utilisait la commande CD, des choses comme ça. Alors qu'en parallèle, quand on était sur Microsoft, pourquoi ils appelaient ça Windows? Parce que fenêtre. Et pourquoi fenêtre? Parce qu'il y avait un environnement graphique. On avait une souris, on cliquait sur un élément, c'était visuel. Et voilà. Donc, du coup, la nécessité de connaître les commandes n'était plus là, parce qu'on avait une interface dite graphique. Alors oui, effectivement, sous Linux, pendant ce temps-là, on est encore en ligne de commande. Il faut comprendre que derrière, que vous double-cliquiez sur un dossier ou vous fassiez un CD, le nom du dossier, dans un terminal, ça revient à la même chose, c'est se déplacer dans le dossier. Mais effectivement, l'univers de Linux a énormément changé et on a des interfaces aujourd'hui qui sont, qui n'ont rien à envier à l'environnement Windows. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même ce qui est derrière, dans tous les cas. Et même sur Windows, quand vous cliquez sur un dossier, un double-clic, ça revient à changer de répertoire et donc à se déplacer. C'est juste que l'interface graphique, elle permet un accès au plus grand nombre, c'est-à-dire effectivement ce que disait Marc, quelqu'un qui pourrait avoir une espèce d'appréhension à se dire, oula, qu'est-ce que je fais, je comprends pas, la souris, elle a ce côté rassurant, je clique, je me déplace, voilà. Mais oui, aujourd'hui, on a des environnements dans l'univers Linux qui sont, que ce soit Linux Mint, que ce soit Ubuntu, et puis j'en passe, et dans le nombre de distributions Linux, elles se comptent par centaines, elles ont aujourd'hui rien à envier à l'univers de Windows. Mais je rejoins un peu ce que disait Marc, je crois qu'il y a une envie qu'il faut avoir d'abord. Il faut avoir l'envie de se dire, j'ai envie de me réapproprier mon usage de mon numérique, c'est le premier point. Et une fois qu'on l'a, après, il faut avoir un peu, pas trop peur des fois par moment de faire un peu de technique. Mais aujourd'hui, on a, plus avec le web, on a accès à des ressources énormes. C'est-à-dire que même quand on est coincé, on a la possibilité de trouver des informations.
Marc, justement, l'informatique, le numérique est un outil pour vous, pour votre activité?
Oui, moi, je travaille pas mal avec le numérique. J'ai des outils je fais du dessin et j'utilise aussi bien le papier et le crayon que des logiciels pour faire de la retouche et des choses comme ça. Et donc, j'ai vraiment besoin de l'environnement numérique. Et effectivement, moi, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être que le terme qu'il faut dire, c'est que ça soit intuitif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse arriver devant quelque chose qu'on ne connaît pas et petit à petit se dépatouiller tout seul, en gros. Donc, c'est pour ça que les interfaces graphiques, c'est ce qui a permis à plein de gens de voir que quand on bouge une souris, ben, y a une flèche qui se déplace. Quand on clique, ça ouvre un dossier. Et que ça, c'est effectivement, on peut faire la même chose sans interface graphique, mais c'est plus intuitif. C'est de la connaissance de langage. Mais on fait la même chose, simplement. Voilà. Donc, aujourd'hui, Linux est devenu très intuitif. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sans savoir faire de ligne de code, quasiment. Enfin, une fois que la configuration est installée, on ouvre des logiciels en cliquant sur une icône et on fait pareil. Après, si on veut pousser un petit peu plus de personnalisation, si on veut avoir un truc un petit peu adapté à des besoins précis, à ce moment-là, on va ouvrir un terminal et il faut apprendre 2-3 trucs pour le faire. Chose que moi, je ne sais pas bien faire, mais j'apprends un petit peu parce que justement, des fois, j'ai un besoin et puis je me dis comment je fais. Et puis, je vois qu'il faut taper 2-3 trucs et puis hop, ça marche. Et puis donc, du coup, ça y est, j'ai acquis une connaissance et j'essaie de me la garder. Et voilà, donc on apprend. C'est intéressant d'augmenter sa capacité à gérer ces machines qui sont a priori pas simples, quoi.
Gabriel, cette notion de s'accaparer son univers numérique, c'est aussi une possibilité que ne propose pas le système Windows, par exemple, où on offre du tout prêt, tout réchauffé.
Ah ben, clairement, c'est l'intérêt de ces grands éditeurs logiciels, il n'est pas dans l'intérêt de leurs usagers, il est dans leur intérêt à eux. J'ai pas mal d'exemples comme ça que je pourrais prendre, mais j'ai un exemple, mais je veux pas trop spoiler la conférence, mais par exemple, quand vous êtes sur YouTube, sur votre téléphone, on se rend bien compte que la façon dont a été développé le programme, il est fait pour que la société Google emmagasine un maximum d'informations sur vous, vous capte un temps le plus longtemps possible connecté sur votre téléphone. Il n'est pas dans votre intérêt à vous. C'est sûr que si demain on devait repenser le développement d'un outil pour regarder des vidéos sur son téléphone et qu'on se pose la question qu'est-ce qui nous serait intéressant comme fonctionnalité, on va se rendre compte qu'il y a plein de fonctionnalités que nous a mis en place le client YouTube qui ne nous intéressent pas. Donc les éditeurs de logiciels, ils font le logiciel en fonction de leurs intérêts à eux et pas de celui des usagers. Et au travers de, par exemple, de la publicité ciblée, j'en passe, tout ce qui peut être capturé sur vous, ils le font. Et oui, donc du coup, se réapproprier son logiciel, c'est clairement une réflexion autour de quels sont mes besoins, qu'est-ce que je veux faire avec mes outils numériques, et après, quelles sont les possibilités. Et ça, on a une énorme chance aujourd'hui, c'est qu'on a des communautés open source qui sont très, très denses, qui répondent à beaucoup de fonctionnalités. Je pense, j'ai un petit exemple pour aujourd'hui, parce qu'en plus, c'est un petit clin d'œil. Il y a une personne, Lisa, qui est en train de faire une présentation aujourd'hui à son école et qui est venue me voir la semaine dernière en me demandant si je pouvais l'aider pour sa présentation. Classiquement, si on vient vous voir pour vous demander une présentation, je pense que vous allez orienter la personne sur PowerPoint ou ce genre d'outils. Et je lui dis, écoute, je te propose, on va essayer de faire ça avec un outil qui est justement qui n'appartient pas dans la mainmise des GAFAM. On a fait ça avec un outil qui s'appelle EdgeDoc. Donc c'est un outil qui est développé par une communauté et qui est sur le web. Et donc j'ai montré à Lisa comment on pouvait faire ses présentations, ses slides, et elle l'a mis en place. Et je trouve ça, c'est une super expérience. Elle démontre par son usage, en plus elle est toute jeune, elle a 10 ans, qu'à 10 ans, on peut utiliser des logiciels qui ne sont pas des logiciels des géants américains, en l'occurrence ici Microsoft, qui n'est pas PowerPoint, et qui répond à sa problématique. À sa problématique à elle, c'était de faire une présentation sur le capybara. Voilà. Donc on a mis ça en place, et je pense que pour elle, c'est une fierté. Et quelque part, pour moi, elle ne s'en rend pas compte, mais elle a fait une action un peu politique, quoi. Elle sait, elle a regardé qu'on pouvait. Et donc, pour elle, pour la suite, j'imagine, si demain elle doit refaire une présentation, elle se dira « Ah, mais je connais, il y a un outil qui me permet de faire ça. » Et elle dira certainement se retourner vers cet outil. Et là, c'est une petite victoire quelque part. C'est de montrer que le besoin, c'était la présentation PowerPoint. C'est de la présentation de slides. Et les outils, il y a des outils open source pour faire ça.
Open source, donc c'est un conglomérat de communautés, si je comprends bien.
C'est un terme qui veut dire donc open source, code ouvert, source ouvert. C'est l'idée que le logiciel, enfin le code source qui est derrière le logiciel, il peut être modifié, copié, diffusé, et ce complètement librement. Voilà, c'est cette philosophie de se dire je m'approprie le code et je peux le modifier à ma guise. Il y a pas, c'est un peu la différence, c'est du code fermé. c'est ce qu'on appelle le copyright, c'est-à-dire du code qui est protégé et pour lequel généralement on n'a pas le droit d'aller modifier le code parce que c'est du logiciel qu'on appelle privateur. Et là, à l'inversement, open source, c'est du code qui dit bah, c'est tout l'inverse. C'est prenez le code, modifiez-le, diffusez-le. C'est vraiment une philosophie de dire le code, il a été écrit, il est fait pour être modifié, échangé et même amélioré surtout. Voilà.
Je me tourne vers Marc par rapport à cette proposition de l'open source. Est-ce que vous y trouvez un intérêt et quelle est la conviction pour vous de vous y être mis ?
Bah, moi, à mon niveau, moi, je suis pas développeur de logiciels, donc j'ai pas directement je vois juste le résultat de ce que la communauté open source peut proposer à un utilisateur et je peux trouver un logiciel ou une version d'un logiciel qui sera adapté à un besoin, mais je suis pas du tout, je vais pas moi-même participer activement sur un développement d'une version open source d'un logiciel. Je suis utilisateur uniquement. C'est la différence entre Gabriel et moi, là.
Et justement, il y a l'aspect numéraire également, puisque ces applications sont en accès libre, donc au moindre coût, peut-être une contribution de soutien est proposée.
Bah, généralement, les communautés qui développent ces logiciels proposent de faire des dons, c'est assez classique. Il y a aussi alors c'est assez paradoxal, je vais prendre le cas de Firefox que peut-être beaucoup de gens connaissent, ce navigateur donc web qui est open source, et ben il est grandement financé par Google. Et bon, là pour le coup, ben, on peut les remercier, mais ils ont aussi un intérêt, c'est-à-dire de créer un concurrent, enfin je sais pas si on peut parler concurrent, mais en tout cas de garder de l'innovation en phase 2. Ça aussi les permet à eux, avec leur navigateur Chrome, d'aller aussi chercher à améliorer leurs outils. Mais on a comme ça beaucoup. Il y a des sociétés qui financent des logiciels open source. Il y a même des outils qui sont même à la base de beaucoup, beaucoup de programmes massivement utilisés. Il y avait ce petit programme, la Log4j, qui avait fait beaucoup parler. C'est un petit programme qui est fait en Java, qui est maintenu par une toute petite communauté de personnes, je crois même qu'une seule personne, et qui est à la base de plein de programmes Java qui sont, eux, pour le coup, pas open source. Et heureusement qu'on a ces gens-là qui maintiennent ça. Alors ça avait fait une histoire parce que justement, il était très sensible cet outil et il était utilisé tellement par une grande quantité de logiciels que c'était un point un peu sensible. Bon, mais passons, c'était une parenthèse. Mais pour revenir sur la notion de comment c'est financé, bah, par le don et des fois par des sociétés. Je crois que surtout, ça fonctionne à l'huile de coude. C'est-à-dire que c'est des communautés de gens qui sont motivés, qui ont envie surtout d'investir et de développer le panel de logiciels libres. Et du coup, ben, ça passe plutôt par, je dirais, c'est de la motivation et de l'implication des gens. Voilà.
Alors, pour ce samedi 24 janvier, il y a cette question. Est-il possible de vivre dans un monde sans l'omniprésence des géants américains de la tech, Noé GAFAM? Ça, c'est la question posée. Je vous poserai, vous pouvez peut-être dire oui ou non.
Bah forcément, ma réponse, c'est oui. Après, je pourrais développer, mais c'est justement l'idée de la conférence, pour ne pas trop spoiler. Mais oui, pour moi, on peut tout à fait vivre dans un monde sans cette omniprésence. Ça passe par principalement la volonté des usagers. Voilà.
Et là, je viens sur cette alternance hein, donc de l'open source. Pourquoi si peu de visibilité de cet aspect dans ce qu'on nous propose sur Internet?
Je ne sais pas si c'est peu de visibilité. Je pense que c'est comme beaucoup de choses. Quand on ne s'intéresse pas, on ne le voit pas. Après, c'est pas, y a pas la force commerciale que pourraient avoir des outils en termes de communication comme des Google, des Microsoft, des Apple. Qui forcément, chaque fois qu'ils sortent des outils ou chaque fois que, par exemple, Apple, chaque fois qu'il sort un nouveau téléphone, on en entend parler à la publicité, à la télévision et en grande pompe parce qu'ils ont une force commerciale et qu'eux, ils ont des enjeux économiques importants derrière tout ça. C'est sûr que dans le monde de l'open source, il n'y a pas du tout ces enjeux économiques à ces échelles-là. Donc, on en entend moins parler. Ben, oui, parce qu'il n'y a pas la communication qui va avec. Mais par contre, quand on s'y intéresse un peu, ben, on peut se rendre compte rapidement en allant sur Internet, sur le web, qu'il y a florilège d'outils et en fait, on a vraiment un choix aujourd'hui. Il y a des possibilités énormes. C'est plus une question de... Je dirais encore une fois, c'est la philosophie. Est-ce que la personne a envie de s'accaparer son environnement numérique et de le maîtriser, auquel cas on va rapidement aller se tourner vers ces logiciels open source. Soit on n'en a pas l'envie, peut-être un peu par fainéantise, et on se dit bah, je prends ce qui arrive, ce qui est là, et des fois on le fait même sans avoir connaissance qu'il y a des alternatives. Moi je connais des personnes, ils veulent faire un traitement de texte, et puis d'ailleurs dans le vocabulaire déjà il y a un problème, c'est souvent les gens disent bah, tiens je vais faire un Word. Mais non, c'est pas, je ne vais pas faire un Word, je vais faire un traitement de texte. Word, c'est un outil, comme il y en a d'autres. Bon. Donc, il y a, c'est surtout, je pense, oui, il y a un manque de connaissance que ça peut exister, je dirais, dans la masse générale. Mais dès qu'on s'y intéresse un peu, on accède assez facilement à ces informations.
Marc, oui.
Moi, je pense que ça exprime une différence de philosophie fondamentale. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a des gens qui veulent vous faire acheter un produit dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, on va investir dans de la communication. Donc, vous allez entendre parler de plein de produits. Vous allez peut-être attirer pour les utiliser. Et des fois, ça va matcher avec vos besoins. Et puis, des fois, non. Et de l'autre côté, c'est vous qui avez un besoin. Vous allez chercher qui répond à ce besoin. On va trouver la communauté libre et on va trouver le produit. Mais on va aller directement vers les produits qu'on a besoin. C'est pas quelqu'un qui va nous proposer des choses et qui vont être, des fois, des choses dont on n'a pas besoin. C'est vraiment deux approches complètement différentes.
Parfois, alors je ne sais pas si c'est toujours possible, fut un temps, je m'étais fait installer un double système d'exploitation sur mon ordinateur. Mmh. Est-ce que c'est possible de nos jours, justement, pour opérer cette transition, de conserver cet accès GAFAM, entre guillemets, et cet aspect open source sur le même ordinateur?
Oui, tout à fait. Là, ce que vous évoquez, ça s'appelle le multi-boot. Et oui, c'est tout à fait faisable. En tout cas, les systèmes Linux s'installent à côté d'un système Windows sans problématique. Même aujourd'hui, on a des installations graphiques qui permettent de faire ça. J'en souris et je regarde Marc en souriant parce que justement on est précisément en train de faire ça en ce moment sur son ordinateur. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est effectivement une bonne transition. Après, moi, c'est mon retour d'expérience à moi pour l'avoir pratiqué, parce que je suis un peu un évangéliste du monde open source et du libre. Et donc j'ai installé beaucoup de Linux chez beaucoup de personnes pour justement initier. Et je me rends compte avec le temps que souvent, c'est la petite transition. Je vais pas dire, enfin, pour moi, elle est un peu perte de temps parce que on veut garder son système Windows en se disant non, j'en ai encore besoin parce que j'ai mes outils, etc. Un peu par fainéantise de faire la transition totale, mais je la comprends. Hein, des fois, c'est par crainte, par peur de changer ses habitudes d'un coup. Et Marc l'évoquait, des fois, c'est mieux de le faire en transition. Mais mon retour d'expérience, c'est que des fois, ça vaut quand même bien le coup d'aller se jeter dans le bain un bon coup. Allez, hop, on formate le Windows, on installe qu'un Linux et on s'y habitue. Voilà. Et cette méthode, elle est un peu radicale, mais je trouve qu'elle a le mérite de fonctionner. Et souvent, en fait, toutes les personnes les rares personnes à qui ont accepté de faire cette expérience, j'ai eu que des retours positifs. De dire, en fait, j'ai bien fait. Voilà. Et puis là, il y a eu récemment Microsoft qui a décidé de ne pas rendre compatible la migration Windows 10, Windows 11. Et du coup, ça rend compliqué beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des Windows 10 qui ne seront plus maintenus. Et du coup, ils se retrouvent coincés avec un Windows 10. Et donc là, il y a beaucoup d'articles qui ont paru là-dessus, où beaucoup de personnes ont fait finalement le choix de dire, si Windows me bloque à ce moment, tant qu'à faire, je vais aller sous Linux. Donc, il y a eu toute une migration de personnes. Et moi, j'ai en exemple mon beau-frère là, qui m'avait sollicité pour ça. Et je lui ai dit, écoute, je te propose la transition radicale. Et il en est super content. Voilà, les retours que j'ai, il me dit, c'est génial, j'ai bien fait. Il n'y a rien que je faisais sous Windows que je n'arrive pas à faire sous Linux. Donc c'est une réussite à 100%.
Et puis, il y a cet aspect sobre de l'interface qui est beaucoup moins gourmand dans RAM, peut-être aussi pour son exploitation.
Oui, c'est vrai que Windows, il a tendance à nécessiter aujourd'hui des machines qui en ont besoin de, je crois qu'il a besoin quasiment de 2 ou 3 gigas de RAM rien que pour fonctionner, rien que pour démarrer. C'est sûr que ça, il y a une côté un peu énergivore. C'est inhérent au fonctionnement du développement de Microsoft Windows. Ils empilent. Donc, du coup, on se retrouve avec des systèmes qui sont très, très gourmands. Donc, oui, effectivement, quand vous mettez un Linux sur une machine, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'à performance, à puissance de machine équivalente, vous avez quand même vachement plus de puissance qui est laissée libre sur votre machine pour votre usage, qui est moins mangé par le système. Donc, oui, ça, là-dessus, ça se mesure très, très bien. Ouais. Tout à fait. Et c'est une vraie vérité, ça.
Il y a aussi cette thématique, donc réapproprions-nous localement notre environnement numérique. Et donc, comment peut-on mettre en application, notamment sur le DIWA par exemple ou...
Et alors ça, c'est le projet concret, LIODI, justement. Ce projet-là, je n'ai pas donné l'acronyme, mais LIODI, c'est le laboratoire d'informatique ouverte, ADI. Ce projet que je crée avec un ami, depuis cet été, là ça fait à peu près 6-7 mois qu'on est sur le projet, consiste à utiliser des appareils basse consommation d'énergie, donc basés sur ce qu'on appelle des processeurs ARM, en l'occurrence ce sont des Raspberry Pi, de les mettre en serveur, de les utiliser en fonction de serveur et de rendre du service numérique. Et donc on héberge des services et géographiquement ces machines-là sont addies. Et ce projet, il a pour objectif d'essaimer. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque part, c'est un data center, au sens on a centralisé les datas, mais notre volonté n'est pas d'en faire un géant data center. C'est pas du tout le projet. Le projet est plutôt de faire un prototype, c'est plus qu'un prototype, en tout cas, parce que là, ça fonctionne quand même bien. Mais c'est de montrer comment ce modèle-là peut être répliqué. Et c'est d'inciter même plutôt soit les individus, soit des petites entreprises ou des plus grosses entreprises à répliquer ce modèle-là et à s'accaparer, à prendre possession de leurs données, de leur data center et de l'héberger chez eux-mêmes. Donc ça peut être des particuliers qui hébergeraient leur propre Raspberry Pi. Marc en est un exemple vu que c'est une transition qu'il est en train de faire. Il y a d'autres projets en cours avec d'autres organismes dans le DIWA autour de ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on monte avec le projet Liodis, c'est quelque part de montrer ça marche. Ça marche à bonne échelle, ça marche pour des bons services et développons ça. Et l'idée, c'est que nous, on fasse quelque part ce qu'on appelle un template, un modèle qui se réplique. Voilà. Et plus ça se réplique. Le succès du projet, ce sera quand plusieurs petits centres comme ça auront essaimé sur le DIWA, c'est que là, on a réussi le projet. Voilà.
Juste pour les novices, template, quel sens
Modèle, c'est un template, un modèle, une façon de... C'est vrai que dans le terme qu'on appelle template, c'est quelque chose qu'on peut reprendre et réutiliser pour repartir d'une base qui est déjà pré-créée. Donc un modèle déjà créé, qu'on réutilise. Donc là, quelque part, le sens template que je donne à ce projet, c'est on prépare un modèle de petit data center utilisant des petits serveurs basse consommation et ces petits serveurs est facilement administrable. Alors après, je passe techniquement autour de Docker et autres, mais je fais une parenthèse assez technique. L'idée, c'est de montrer comment ça fonctionne et que les gens se réapproprient ça et le fassent tourner chez eux.
Oui, Marc.
Je pense que c'est important pour que les gens imaginent, parce que quand on dit data center, on imagine des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est expérimenté. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de développer là, ça prend la place d'un frigo de caravane. C'est un petit bloc tout petit dans lequel il y a plein de petits appareils minuscules. Et c'est ça qu'il appelle un data center. Donc, il faut quand même bien voir que l'image qu'on en a peut être très différente.
Donc, très peu énergivore.
Oui, c'est des ARM. Un Raspberry Pi, ça consomme 3 watts à peu près. Donc, ça consomme une ampoule électrique. Même pas 3 watts, c'est même pas une ampoule électrique.
Marc, cette acquisition d'outils issus de l'open source vous donne donc accès à toutes sortes d'applications qui vous permettent de dessiner, de faire de la mise en page. Comment se produit cette transition ?
Ben là, pour le moment, j'en suis pas encore. Enfin, les outils vraiment un peu professionnels que j'utilise, je les garde encore sous Windows. Mais c'est déjà mon idée, c'est plutôt d'avoir de fonctionner un peu sur les deux. Bon, moi, je suis pas aussi radical que ce que le suggère. Mais bon, il y a tout, effectivement, c'est du rassurage. C'est-à-dire que moi, j'ai mon activité professionnelle, donc je serais un peu... c'est moins confortable pour moi de me dire que je lâche complètement un truc alors que c'est mon activité professionnelle. Donc là, je m'adapte déjà. Enfin, le mail, je sais que ça va être un bon morceau aussi. Et là, c'est en cours. Et après, je passerai vraiment aux applications, un peu effectivement changer de Photoshop, parce qu'il y a aussi toutes les habitudes d'usage qu'on a qui vont changer, même si le logiciel fait la même chose, un logiciel libre peut faire la même chose, il y a quand même des tas de petites habitudes d'usage qu'il va falloir retrouver. Et ça, c'est un investissement, enfin, il faut se lancer, quoi.
C'est un investissement de temps pour s'adapter. Je me souviens des premières versions de GIMP où s'ouvrait une multitude de fenêtres sur l'écran pour accéder à chacune à un outil spécifique. Là, l'interface est regroupée sur une seule table qui ont pris en quelque sorte l'aspect de Photoshop au niveau de l'arborescence. Est-ce que la plupart des logiciels issus de l'open source ont cette capacité ou s'est adapté aussi à cet aspect ludique?
Après, je ne sais pas s'ils copient tous les fonctionnements des logiciels pour lesquels ils font un peu la même fonctionnalité. Il y en a aussi qui innovent. Après, je sais pas, je prends l'exemple de Nextcloud. Je connais, moi, ne connaissant pas Google Drive et ne connaissant pas Dropbox, est-ce que Nextcloud reprend des codes que l'on peut retrouver sur les autres outils? Je sais pas. La fonctionnalité, c'est de synchroniser des fichiers. Bon, ben, l'interface est relativement simple. Le Nextcloud Client, vous l'installez sur votre ordinateur, vous ouvrez un dossier, vous mettez un fichier dedans, boum, il est synchronisé. Sûrement qu'il y en a qui reprennent des codes. Je pense que notamment Writer de LibreOffice a repris pas mal d'outils et de codes. Quand on met en gras, on a le G en gras. Quand on met en italique, on a le I. Donc oui, il y a des codes comme ça qui ont été créés, j'imagine, par ces sociétés, en l'occurrence Microsoft Word, qui a un peu au départ lancé et standardisé le monde de l'édition de texte. Ils ont créé plein de codifications avec leurs icônes qu'on retrouve dans aujourd'hui les outils libres. Même Google Doc en ligne, je crois qu'ils reprennent un peu ces codifications. Donc, on va dire que quand c'est bien fait, moi j'ai une phrase comme ça, mieux vaut être un bon copieur qu'un mauvais inventeur. Donc, si les outils présentent des fonctionnalités qui sont intéressantes, bah, pourquoi pas les reprendre. Mais ça n'empêche pas, je pense, des outils de complètement innover. Quand vous prenez VLC quand il sort, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de pendant. C'est eux qui innovent plutôt la lecture de vidéos. Donc, ils inventent à ce moment-là l'environnement graphique, l'IHM nécessaire, l'IHM, l'interface home machine, nécessaire à la lecture de vidéos. Bon, ben bah, voilà. Il y a des deux, je pense, oui, il y a des copies et puis des gens qui innovent.
Cette transition est-elle accessible à toutes les générations aujourd'hui? Est-ce qu'il y a justement, par le biais de l'IO notamment, cette possibilité d'aider à cette transition?
Nous, notre projet, il est clairement d'essayer de développer les usages autour des outils libres, de s'autonomiser vis-à-vis des GAFAM. Et notre projet, c'est d'accompagner les personnes qui sont désireuses de le faire, les personnes et les structures, peut-être des entreprises aussi. Donc ça, c'est le projet. Est-ce que tout le monde peut s'approprier ça? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de 7 à 77 ans, comme le dirait la chanson, même plus même. Mais c'est pas tant l'âge des personnes ou la situation socio-économique, je pense que c'est surtout une question de volonté et d'envie. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie, qui prennent conscience d'eux? C'est un peu comme... je fais beaucoup d'analogies avec l'agroalimentaire. À partir du moment où vous voulez manger une tomate, quelles sont vos possibilités? Il y en a deux. Vous pouvez vous-même cultiver votre propre tomate dans votre jardin. Enfin, il y en a deux. Il y en a plusieurs, mais vous pouvez cultiver votre tomate ou aller voir votre voisin qui cultive des tomates. Et voilà. Ou alors, vous pouvez aller dans un supermarché et les acheter. Et là, bah, vous n'avez pas connaissance de comment elles ont poussé, comment elles ont été comment elles ont été développées, est-ce qu'il y a des produits chimiques qui ont été mis dessus. Bon, vous en savez très peu. Bon, il y a ces deux aspects. Bah, c'est un peu pareil avec le numérique. Quand on décide de se rapproprier son numérique, c'est de décider d'aller voir justement comment on fait pousser la tomate, quoi. Voilà.
Avec la dématérialisation opérée par l'administration, est-ce que l'utilisation de Linux est une embûche?
Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est une très bonne chose qu'on se tourne vers des outils libres, open source. On a eu la gendarmerie qui a opéré une transition un peu forcée, en se rendant compte que l'utilisation, notamment c'était pour les suites, pour du traitement de texte, ils utilisaient à l'époque du Microsoft Word et autres, suites Microsoft. Et ils se sont rendus compte que ça pouvait poser un problème dans l'utilisation de ces logiciels parce que derrière, on a une compagnie américaine qui potentiellement doit être respectueuse de ce qu'on appelle le Cloud Act et le Patriot Act aux États-Unis, avec des conséquences potentiellement pour les usagers qui peuvent être observés en permanence par des institutions américaines. Une entité comme la gendarmerie, ça pose problématique que notre gendarmerie en France puisse avoir de l'ingérence avec des services américains. Donc c'est une très bonne chose qu'à un moment donné, elles se disent on ne doit pas utiliser ces logiciels et qu'on est en plus, ils ont eu de la chance, il y avait une alternative. Parce qu'imaginons qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc il ne faudrait pas le faire, on est observé. Ah, mais on n'a pas d'autres alternatives. Ah. Donc heureusement qu'il y a des alternatives. Et je pense que c'est un très bel exemple de montrer qu'il faut qu'en permanence, sur tous nos usages numériques, on ait la possibilité d'avoir des solutions libres, open source, pour justement s'affranchir de ces grandes sociétés. Le drame, c'est pas qu'elles soient américaines, c'est qu'il y ait des lois aux États-Unis qui font que les sociétés éditrices de logiciels américains ont une espèce d'allégeance à leur gouvernement au travers du Patriot Act et du Cloud Act. Et derrière, ça a des conséquences sur les logiciels qu'ils développent, les données qu'ils capturent. Et ça pose problème. Et j'en passe, je développerai ça dans la conférence, mais qu'il y a des conséquences aujourd'hui même directes sur nos démocraties.
Voilà, notamment avec cette demande de visa qui doit être accompagnée de tout son parcours internet et de ses contacts sur les réseaux à fournir pour une demande de visa, notamment aux États-Unis.
Ouais, je pense qu'ils n'ont même pas besoin qu'on leur fournisse. Hein.
Oui,
ils y ont accès sans
sûr,
problème aujourd'hui.
Bien sûr, mais c'est ça. C'est...
Mais il y a un drame, il y a un drame sur la vie privée là.
Voilà, c'est oui. Aussi cet aspect de la vérité. La personne qui omet de dire, pour eux, ce n'est pas une personne recommandable à accueillir. Voilà. C'est un vaste sujet. Encore une chose, justement, par rapport à ce réseau numérique qui est quand même sous domination américaine actuellement à travers la planète. Mmh. Est-ce que l'intérêt aussi, c'est de pouvoir nous-mêmes de nous recréer un système numérique autonome ?
Alors, clairement, moi, c'est mon projet et c'est un peu ma motivation au travers de ce projet-là. J'ai bien conscience que c'est... de mettre des coups d'épée dans l'eau quelque part, ou c'est un peu David contre Goliath. Je dis souvent, c'est même pas David contre Goliath, c'est la fourmi contre Goliath, parce que là, c'est tellement tentaculaire, les géants américains au niveau numérique aujourd'hui. Mais oui, c'est possible, c'est une question de volonté, et à partir du moment où des institutions, des personnes décident de prendre le sujet, on se rend compte que ça se met en place, et c'est faisable. Et je vous le redis, moi, ça fait plus de 10 ans qu'avec mon entreprise, je suis sorti entièrement des GAFAM. Notre usage dans notre société, il est complètement basé autour de notre autonomie numérique. Et l'idée, c'est de développer ça, c'est d'essaimer ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus on sera nombreux à le faire, plus on va développer des compétences et des connaissances entre nous, et on va faire évoluer encore plus cet écosystème dans ce sens. C'est-à-dire que plus vous utilisez des outils américains, finalement, plus ça se concentre autour de ces outils-là. Et inversement, plus on va s'autonomiser, plus on va chacun commencer à mettre en place nos propres Nextcloud, nos propres messageries, et bien en fait, plus on va développer ces usages-là, plus justement on va faire évoluer ces outils-là. Et donc, c'est clairement la démarche à suivre parce que c'est ce qui va nous permettre une émancipation encore plus intéressante. Et puis, je pense que ça va même amener encore plus d'innovation d'aller dans ce chemin-là. Voilà. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut y aller pour de nombreuses raisons, mais encore une fois, j'en parlerai à la conférence. Mais oui, tout à fait, c'est tout à fait possible.
Au point que l'IoD est introuvable sur Google.
Oui, on n'est pas référencé. Oui. Je pense que là, si vous le tapez aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose qui va sortir.
Je l'ai tenté ce matin, hein, ouais. Je n'ai rien trouvé.
Non, mais par contre, si vous allez... Alors, petits clins d'œil, on fait tourner un Peertube là, depuis une semaine. Donc, vous allez sur peertube.liodi.fr. Il y a un Peertube qui tourne ici, à Di. Donc, on a notre propre serveur de diffusion de vidéos, voilà, qui est local, pour le coup, bio et local.
J'y mettrai le lien sur la page.
Et il y a d'autres outils comme ça. Il y a le Search Engine, c'est celui que tu voulais parler. Vas-y, Marc.
Bah, oui, non, ça, je trouve que celui-là, il est à la portée de tout le monde. Si on veut essayer de faire des recherches sur Google sans être tracé, et donc sans avoir des publicités qui sont associées à notre recherche, on va sur search.liodi.fr. Et on a le même service, la même interface, sauf que c'est pas Google. Et c'est vraiment puissant. Et on a toutes les réponses à nos recherches. Et la recherche, elle passe par une cave à 10, quoi.
Voilà.
On est orienté vers quelque chose qui n'est pas les GAFAM.
Tout à fait. Et comme ça, on fait tourner à l'Institut beaucoup de l'idée. On appelle ça notre potager numérique. On lui a donné ce petit nom. Et on fait tourner beaucoup d'outils open source ici à Di sur ces serveurs, donc sur des Raspberry Pi. Et c'est des services qu'on met à disposition. Donc voilà, on est vraiment sur... quand on dit réapproprions-nous localement notre environnement numérique, c'est ce qu'on fait. Et nous, on le fait à titre, comme je disais, d'exemple. Et ça tourne très bien. Et l'idée, c'est toutes les personnes qui souhaiteraient le faire eux-mêmes, on leur donne les configurations, les templates de fonctionnement, donc les images Docker et autres, pour que les personnes puissent se réapproprier, le faire eux-mêmes. Alors bien sûr, ça nécessite un peu de technicité, mais c'est clairement le projet, c'est de montrer qu'on peut le faire.
Voilà, l'IoDi avec ce logo dessiné par Marc Batty.
Oui, tout à fait. Pour en savoir plus, il faut venir le 24 à l'avant-poste.
Il y aura des choses à découvrir visuellement sur place.
Il y aura une introduction sur réfléchir à la position de ces GAFAM, leur impact. Qu'est-ce que c'est qu'un data center, justement? Tu as bien fait de le préciser tout à l'heure, Marc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un data center? Il y a l'imaginaire collectif et puis il y a en fait ce que ça peut être, comme l'exemple de la cave qui était pris. Des réflexions sur les consommations énergétiques, parce que aujourd'hui c'est pas anodin d'utiliser les GAFAM, ça l'est de moins en moins, surtout avec l'avènement de l'IA et ces grands modèles, ce qu'on appelle les LLM, Large Learning Model, qui ont pour conséquence de consommer énormément d'énergie pour faire apprendre à ces modèles, des modèles statistiques. Et du coup, ben, sortir nos données de chez ces GAFAM, c'est une façon aussi de repenser écologiquement notre usage numérique. Si on laisse nos données chez eux, ils vont toujours plus consommer d'énergie pour les traiter. Ça, on est en plein dans cette ligne-là. Et si justement on commence à se dire bah, si j'héberge mes données différemment, c'est une façon de ne plus les faire analyser par tous ces algorithmes. Et donc du coup, c'est aussi une façon de réduire sa consommation énergétique.
Et puis j'ai lu récemment qu'une question posée à l'IA, c'est équivalent à une bouteille d'eau de consommation.
Ouais, par exemple. Ça, c'est pour l'eau, pour l'électricité. J'ai pas regardé les chiffres, mais ça devient du délire. Ouais.
Alors, pour se renseigner, il y a aussi un numéro de téléphone, je peux l'indiquer,
oui, bien sûr.
06 63 23 12 07, donc samedi 24 janvier à 11h, ça sera à la grande salle de l'avant-poste.
Tout à fait, au rez-de-chaussée.
Eh bien, je vous remercie en tout cas, Gabriel Bondaz et Marc Batty, d'être venus sur RDWAP pour nous parler donc de se sortir des GAFAM, une conférence qui aura lieu pour tous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Auftritt in 10 Minuten.